Amen. Quel Sauveur merveilleux nous avons. Il est digne de toute notre louange. Il est digne, Jésus. J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Luc, chapitre 23. On ira à partir du verset 50 et on ira au début du 24. Luc 23, 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, et qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres, il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en retournèrent. Elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Voilà comme texte d'introduction, le monde religieux, le chrétien, toute la surface de la terre, fête Pâques, qui est la fête la plus importante, je dirais, pour le christianisme, qui passe même avant la naissance. La fête de Pâques parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est le fait le plus important, c'est le fondement de notre foi. La Bible nous dit que nous sommes, que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est le fondement de notre espérance, fondement de notre foi. Oui, nous voulons nous souvenir de tout cela. Et si ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus, c'est le Père qui l'a ressuscité avec puissance d'entre les morts. Dans Romains 1,4, il est dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance » selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien n'a pu le retenir, ni le tombeau, ni les liens sur la... Rien n'a pu le retenir, Jésus est mort, mais il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Alors, la fête de Pâques, comme toute autre fête dans la parole de Dieu, elle vient de loin, cette fête, et nous y viendrons un instant. Elle vient de l'époque même de Moïse, dans l'Exode, au chapitre 12. Mais c'est une fête tellement profonde aussi. Elle va très profonde dans la spiritualité, dans l'enseignement. Mais elle va aussi très loin. Elle nous mène jusque dans le ciel. Jusque dans le ciel. Et d'ailleurs, Jésus, quand il a institué la Sainte Cène, il dit « Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'au jour où... je le prendrai avec vous dans le ciel, aux noces de l'agneau. » Ça va très loin. C'est pas juste une petite fête. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Jésus ne peuvent pas en apprécier l'historique, la profondeur, la dimension prophétique. C'est impossible quand on ne connaît pas Jésus. Mais quand on connaît Jésus, c'est tellement profond, c'est tellement beau. Et j'aimerais dire aussi que ce que nous trouvons dans la Bible, c'est pas simplement un mémorial, un souvenir, mais c'est quelque chose d'actuel, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui doit nous rejoindre. C'est pas juste, oui, voilà, Jésus a fêté la dernière Pâque, il a institué la Sainte Cène. C'est pas un souvenir seulement, mais c'est prophétique. Ça vient jusqu'à nous, ça nous concerne, ça agit dans notre vie. Amen. Nous verrons ensemble ce matin quelques enseignements tirés de la réalité de cette fête de Pâques. N'oublions pas que Christ est notre Pâques. Alors, les conséquences bénies dans notre vie, comme je le disais, plus qu'un souvenir, un mémorial, c'est quelque chose de tellement puissant, tellement puissant. Et dans Exode, chapitre 12, il y a l'institution de la Pâque juive. Juste avant le départ, la sortie de l'Égypte, eh bien, Dieu ordonne qu'il y ait dans cette nuit mémorable, et on parlera de cette nuit mémorable, qu'il y ait, eh bien, la signification, qu'il y ait le bras fort et puissant de Dieu qui agit, qui préserve son peuple et les premiers-nés. Il nous est dit, et je ne sais pas si j'ai noté, voilà, Exode 12:12, « Et cette nuit-là, je passerai, je frapperai les premiers-nés de l'Égypte, et au verset 13, « Et je passerai par-dessus, sous-entendu par-dessus vous, passer outre, c'est la signification de la Pâque, ça veut dire passer par-dessus, passer outre, aller au-delà, épargner. » Donc c'est cette Pâque où le sang avait été appliqué sur les poteaux, sur les linteaux, et l'ange exterminateur est passé par-dessus la région de Gozen où le peuple hébreu était établi et tous les premiers-nés de l'Égypte ont été conservés, gardés. Le peuple entier a été gardé alors que, eh bien, Dieu va agir par le jugement sur le pays de l'Égypte. Donc c'est la Pâque, la première fois où elle a été instituée, il fallait manger à la hâte, les herbes amères, etc. Et puis juste après, eh bien, le peuple va sortir du pays d'Égypte. Voilà la première Pâque qui a été instituée. Bien sûr, je ne vais pas trop m'attarder sur cette institution de la Pâque juive. Donc, sauver, épargner, il fallait cette nuit, il fallait comme une mort, il fallait pour que la vie ensuite jaillisse. Alors, nous nous souvenons que l'Égypte, la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge, eh bien, c'était pour sortir, pour être délivré, eh bien, de l'armée de Pharaon, de l'Égypte, des poursuivants. Il fallait sortir, traverser la mer Rouge. C'est symbolique, bien sûr. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de traverser les eaux. C'est le symbole de quitter pour nous, de sortir du monde. De sortir du monde et de servir le Dieu vivant et vrai. Mais dans ce peuple-là, il devait sortir de l'Égypte, mais il devait quitter aussi les idoles, les habitudes, la vision, tout ce qui se pratiquait en Égypte. Ça devait être quitté, ça. Et nous nous apercevons que le peuple est sorti et Dieu a fait sortir le peuple à main forte et à bras étendus. Il a fait sortir ce peuple, mais nous nous apercevons que les habitudes sont restées, que la vision de l'Égypte est restée, que des regrets étaient là, etc. Donc physiquement, ils étaient sortis, mais dans leur cœur, il y avait encore l'Égypte dans leur cœur. La parole nous le dit, dans le désert. Pourquoi je dis que leur cœur n'a pas été libéré? Parce que dans le désert, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens? Et je suis étonné du peuple de Dieu. Je suis étonné parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu des choses que vous et moi, nous n'avons jamais vues. Ils ont vu la gloire au travers de la nuée, de la colonne de feu. Ils ont vu la gloire, la présence de Dieu. Ils ont vu des choses que nous, on ne verra jamais. Ils ont été au bénéfice de la main providentielle de Dieu. Il les a secourus, il les a nourris, il les a protégés, et leurs chaussures même ne se sont pas usées, etc. C'est une marque de la fidélité, de la bonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur du peuple? Des murmures, des plaintes, des ceci, des regrets de l'Égypte. Mais c'est terrible. On se dit, mais comment c'est possible que Dieu délivre un peuple de l'esclavage, des coups, etc. Ils sont dans le désert, dans la protection de Dieu, ils voient la gloire de Dieu, et dans leur cœur, il aurait dû y avoir quoi? De la louange, de la reconnaissance, de la joie, dans le cœur. Voilà ce qu'ils devaient se trouver dans leur cœur, et ça ne se trouvait pas dans leur cœur. c'était pas du tout... Il faudra attendre une autre Pâque pour se détacher. Et nous trouvons cette Pâque dans Josué au chapitre 5, verset 10. Il nous est dit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour. Ils célébrèrent la Pâque. À ce moment-là, la manne a cessé. Il y allait y avoir maintenant les productions du pays de Canaan. Et ça, c'est autre chose. C'est quelque chose d'important, une étape importante. Ils allaient eux-mêmes trouver les bénédictions de Dieu dans le pays de Canaan. Mais c'était cette Pâque-là a été pour eux. Et quand on se souvient du pays de Canaan, on se souvient aussi qu'il a fallu traverser le Jourdain. Il a fallu traverser le Jourdain. Et le Jourdain, nous le savons, je l'ai déjà dit bien sûr, mais le Jourdain, c'est le symbole de la mort à soi. C'est le symbole du renoncement, c'est le symbole, voilà, ça c'est le Jourdain. La mer Rouge, c'est la sortie du monde. Mais là, le Jourdain, c'est la mort à soi, la crucifixion quelque part, le brisement. Avant de rentrer dans le pays de la promesse, il fallait un état d'esprit nouveau, il fallait un cœur nouveau, parce que tout allait être nouveau dans le pays que Dieu leur donnait. Et ça c'est extraordinaire, et pour nous, que de riches enseignements, là. Le peuple de Dieu qui a traversé donc le Jourdain. Un passage, souvenons-nous, Dieu ne fait jamais quelque chose statique. Il fait une chose, il s'arrête. Tout ce que Dieu fait, il y a toujours un prolongement. Il y a toujours quelque chose de prophétique. Dieu nous mène toujours plus loin. Dans ce que Dieu fait, c'est toujours une préparation pour aller plus loin. Tout ce que nous vivons ici sur la terre, c'est une préparation pour l'éternité. C'est une préparation. Que Dieu nous aide à nous laisser façonner, à nous laisser sanctifier par le Seigneur. Souvenons-nous qu'il y avait aussi deux tribus et demie qui ont dit, nous non, ça va, on est sortis du désert, on est au bord du pays de Canaan, ça nous suffit, on va rester en deçà du Jourdain. C'est dommage. Ils ne sont pas entrés dans l'héritage, mais Dieu leur donnera, mais ils n'ont pas voulu entrer dans l'héritage. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inconnu, parce que certainement il fallait combattre aussi dans ce pays de Canaan, etc., etc. Mais ils ont dit, nous on va rester ici en sécurité, tranquille, cool, on va rester en deçà du Jourdain. C'est dommage. Alors que Dieu leur promet ce pays... avec toute la description que Dieu leur donne, un pays où coule le lait, le miel, un pays d'abondance, un pays riche, un pays... Voilà, Dieu leur promet, et eux ils disent, non, non, mais ça nous suffit. On va rester dans notre zone de sécurité, de confort, etc. Mais c'est aussi un enseignement pour nous. Dieu nous appelle à entrer dans ce qu'il nous a promis. Dieu nous appelle à entrer dans les promesses, qu'elles s'accomplissent par la foi. Dieu nous appelle à entrer dans cette vie de l'esprit, dans cette vie puissante, une vie où il faut manifester la foi. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être quelqu'un se dit, mais bon, moi ça me suffit, j'ai été sauvé, j'ai été baptisé, voilà, maintenant. Mais Dieu ne fait pas quelque chose pour nous arrêter là. Mais tout ce que Dieu fait, c'est toujours un prolongement, une prophétique, une préparation pour aller plus loin, pour voir la gloire de Dieu, pour voir eh bien, sa présence, sa puissance, etc., pour vivre quelque chose de fort, afin que nous soyons nous-mêmes des moyens de bénédiction pour les autres. Parce que si nous ne vivons pas quelque chose avec Dieu, comment pouvons-nous être un moyen de bénédiction ? Il faut que nous recevions de Dieu pour donner à ceux qui ont besoin. Révéler Jésus vivant, mais il faut qu'il se manifeste vivant dans nos vies. Les premiers chrétiens, dans les actes, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Mais comment pouvaient-ils rendre témoignage de la résurrection de Jésus ? C'est parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé, ils l'ont vu ressuscité, ils l'ont vu dans sa gloire. Ils l'ont vu, Jésus les a enseignés pendant 40 jours et ils ont pu être des témoins puissants de Jésus ressuscité. Notre monde n'a pas besoin de discours, mais notre monde a besoin d'une démonstration. Et nous devons révéler Jésus à ce monde. Et si nous recevons les choses de Dieu, nous pouvons les communiquer. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, notre Pâque, qu'elle soit une Pâque encore différente. Voilà, il y a encore une Pâque ce matin pour nous. Il y a encore une nuit. Il y a encore une nuit et il faut la traverser. Partout, il y a eu une nuit, il y a eu ce passage. Il y a eu ces... Il y a une nuit aussi. L'incrédulité, le doute. Tout ce que moi-même je programme, je pense. Mais il faut transformer cette nuit en passage. Il faut transformer cette nuit en une vie de foi, pour entrer dans une vie de foi, une vie de l'esprit qui me conduit plus loin, qui me montre qui est vraiment Jésus. C'est Dieu qui, là où Dieu dirige vraiment les choses, une vie de combat, mais une vie de victoire aussi, où on voit la main de Dieu, où on pleure et on chante avec joie. Mais c'est ça la vie, c'est ça aussi notre Pâques, que ce matin on puisse ne pas se souvenir d'une Pâques comme quelque chose d'historique, mais qu'on puisse dire c'est une Pâques vivante. Christ a dit, il est notre Pâques et il est vivant. Il est vivant. Comme les deux tribus, ils voulaient rester dans une vie réglée, une zone de confort. Mais Josué est parti à la conquête de ce que Dieu lui avait mis à disposition. Et le même passage a été pour les disciples. Ils ont connu aussi ces nuits. Ils ont connu cette nuit. Ils ont connu ces moments où c'était comme les ténèbres. Ils ont connu ces moments comme la mort. Ils ont connu ces moments comme ce brisement. Ils ont connu, c'était nécessaire, c'était indispensable. Ils l'ont connu. Ils se sont trouvés devant le tombeau. Ils étaient incrédules. Il y avait des doutes. Ils avaient des pensées humaines, logiques. Jésus leur avait dit, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas, ils étaient à contre-temps. Il fallait qu'ils traversent cette nuit. Ces ténèbres, c'était nécessaire. La mort de Jésus a révélé leur incrédulité. Arrêtons-nous un instant sur la mort de Jésus, juste un instant, et on va voir, et même sur le corps de Jésus. Sur le corps de Jésus. Pour eux, c'était quelque chose d'arrêté, c'était fini, c'était figé, comme ils parlaient, Jésus est mort. Ils ont oublié tout ce que Jésus leur avait dit sur la puissance de Dieu, la résurrection. Jésus est mort. Les femmes apportèrent des aromates, et nous l'avons lu, elles préparaient le corps de Jésus. Ça veut dire que, on prépare le corps parce qu'il va rester là, le corps. Elles préparaient le corps de Jésus. Vous imaginez, elles s'occupent du corps alors que Jésus va ressusciter dans la gloire. Et elles s'arrêtent sur le corps. C'est uniquement un aspect de la vie de Jésus, on va y revenir, le corps. Quel contraste avec cette femme dans Marc au chapitre 14 et au verset 8. Cette femme qui va apporter vers Jésus un parfum de nard pur de grand prix et elle va verser sur Jésus. Et ce que dit Jésus à un moment, c'est intéressant, Marc 14, 8, « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » C'est la seule qui a embaumé Jésus vivant. La seule dans l'Écriture. Les autres, c'est quand il est mort. Il voulait l'embaumer mort. Mais elle a compris prophétiquement. C'est la seule qui a compris prophétiquement que Jésus, il fallait faire du vivant, parce que la mort ne serait qu'un passage, Jésus ressusciterait. Il y avait beaucoup d'incrédulité chez les disciples, une résistance à passer sur l'autre bord, à affronter cette nuit, cette mort, ces ténèbres, cet abandon, ce brisement. Il y avait une réticence. Je ne vais pas lire tous les textes, je citerai de mémoire, mais dans Jean 12, il est dit que si le grain de blé ne meurt, tombe en terre et ne meurt, il reste seul, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, s'il tombe en terre et il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus a accompli. Il est mort, ressuscité, et des fruits, nous les voyons au milieu de nous, et encore sur toute la surface de la terre. Les fruits de cette mort et de cette résurrection, nous les voyons. Pâques, c'est extraordinaire. que nous puissions réfléchir à une autre Pâque pour nous, une Pâque vivante, une Pâque actuelle. Vivre notre Pâque ce matin. Amen. Une Pâque différente. Ce n'est pas seulement un souvenir. Mais Jésus est mort, il est ressuscité. Oui, mais quelle incidence dans ma vie ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Si par la foi, j'entre dans le processus, j'entre dans l'enseignement que Jésus me donne, dans le chemin, dans le plan de Dieu, qu'est-ce qui se passe aussi dans ma vie ? Il fallait, pour les disciples, leur Pâque à eux, comme il nous faut notre Pâque, sortir du mécanisme humain. Notre chair refuse, elle se dresse, elle se met en avant, elle résiste, elle a des mécanismes de défense, elle se justifie, elle veut paraître, etc., notre chair. Et c'est ce qui empêche, eh bien, l'Esprit de Dieu de se manifester avec puissance. Ne caressons pas notre chair, mais elle doit être crucifiée. La vôtre et la mienne, elle doit être crucifiée, afin que la vie jaillisse. La vie de Christ jaillisse. Avec Dieu, il faut connaître cette mort, ce brisement, cette nuit, pour renaître et suivre ce chemin que Dieu nous a tracé, parce que ça continue. C'est pas figé, c'est pas la religion, c'est pas l'institution. C'est pas figé, mais il y a un chemin, il y a un passage où Dieu veut nous conduire et que nous soyons des moyens de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Il fallait connaître, dans l'Ancien Testament, plusieurs, j'ai pas pris beaucoup d'exemples, mais plusieurs ont connu cette nuit-là. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, il y a Élie, il va connaître cette nuit-là. Il va connaître ce brisement, il va connaître ce découragement, il va connaître ce renoncement. Il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Sous le genêt, il est découragé. Il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Oui, il demande même la mort. Et c'est là, quand il a tout laissé, quand il a tout abandonné, quand il dit finalement « Je ne suis plus rien », que là, un ange vient, il le secoue, il lui donne à manger. Il va connaître le surnaturel de Dieu. Il va connaître la marche pendant 40 jours et 40 nuits. Il va connaître ce que c'est que quand Dieu conduit, quand Dieu pousse, quand Dieu relève. Il va le connaître, ça. Et il connaîtra bien sûr d'autres expériences. Que Dieu soit béni. Il y a une autre nuit aussi pour Jacob à Péniel, dans Genèse 32, à partir du verset 24. Il va y avoir cette nuit nécessaire, indispensable pour Jacob, cette nuit du brisement, cette nuit où il sera vaincu et en même temps vainqueur. Il sera frappé à la hanche. Toute la nuit va lutter. Une nuit mémorable. Une nuit, il fallait y passer par là pour que Jacob soit quelqu'un de nouveau. Il sera transformé en Israël. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne sera plus jamais le même. Cette nuit de la Pâque qui va précéder la glorieuse résurrection. On voudrait tous connaître cette vie de l'Esprit, la vie de résurrection, la vie de puissance, mais sans passer par cette nuit, cette mort. Et là, ce n'est pas possible, parce que Dieu a institué un plan, un processus, et nous, on ne peut pas faire un itinéraire bis. Vous savez, des fois, il y a trop chargé, on fait un itinéraire bis, et des fois, c'est aussi chargé sur le bis. Mais, en tous les cas, on ne peut pas. Dieu a tracé, il a enseigné, sa volonté doit être accomplie, et nous devons passer par là. Il faut aussi qu'il y ait cette nuit, et qu'il y ait d'autres nuits aussi, afin que nous connaissions cette vie de résurrection. L'Église en a besoin, les croyants, les Églises ont besoin de cela, pas de discours, mais ont besoin de cette puissance d'en haut, cette puissance de l'Esprit qui se manifeste. Pour les disciples, il y a eu aussi une autre nuit, un passage, une attente, un moment de brisement, certainement, de repentance. Vous savez, quand Jésus va les enseigner pendant 40 jours, alors qu'il est ressuscité. Il va les enseigner dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, vous trouvez dans les premiers versets, Jésus va les enseigner pendant 40 jours des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais c'est formidable d'avoir Jésus, le meilleur instructeur, le meilleur enseignant, le meilleur de l'école biblique, Jésus, pendant 40 jours, il va leur parler des choses. Alors je ne sais pas ce qu'il leur a dit pendant 40 jours, mais ça devait être intéressant, ça devait être profond, ça devait être puissant, pendant 40 jours. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant... Ils sont allés dans la chambre haute et ils se sont tenus là pendant 10 jours. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 10 jours, mais certainement, j'imagine que pendant ces 10 jours, ils ont dit, mais on n'est rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on était prétentieux, mais face à Jésus, face à son enseignement, à sa gloire, mais qui on est? Mais c'est incroyable. Mais Seigneur, pardonne-nous. Ils ont dû vraiment arriver aux limites de leur pensée humaine, de toutes ces choses, et dire, non, mais maintenant, une seule chose, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il nous l'a promise. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Et vous rendez compte, 10 jours d'attente, 10 jours de prière certainement, 10 jours où ils se sont placés devant Dieu, mais ces 10 jours ont précédé un événement le plus puissant de l'Église. Parce que non seulement ça a jailli sur Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu une puissance de propulsion avec le Saint-Esprit que ça a inondé Jérusalem. Et ils l'ont dit, même partout on entend le nom de Jésus dans la ville. Ça a inondé et c'est venu jusqu'à nous. Ce matin, c'est cette propulsion de la chambre haute et ça arrive jusqu'à nous. C'est arrivé. Est-ce qu'on va se dire, voilà, comme les 2 tribus, ben moi ça va, je... Mais non ! Se dit, Seigneur, remplis-moi pour que ça se propulse encore plus loin. Amen. On en a besoin, tellement besoin, tellement besoin. Cette nuit indispensable, mais avec notre libre consentement, notre volonté, notre foi, notre disposition de cœur, ça sera parsemé d'épreuves, d'injustice, de solitude, d'incompréhension. Mais c'est ça la croix. C'est le brisement. La croix vient frapper notre chair. La croix vient frapper notre chair et il faut qu'elle la frappe en profondeur pour qu'il n'y ait plus rien de... Ouais, la croix. Mort avec Christ, identifié avec lui. Alors qu'est-ce que cela comporte dans ma vie? Quelles sont les conséquences? Mort avec Christ, dans Romains 6, mort avec Christ, identifié à lui, mais aussi ressuscité avec Christ. Et qu'est-ce que cela a comme incidence, la résurrection de Christ dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'Église? Oh, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit prenne le relais. Il y a beaucoup trop d'humains, beaucoup trop de pensées humaines. Que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance au milieu de l'Église, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Il n'y a que lui. Plus que la Pâque des Hébreux, plus que la Pâque de Josias, plus que la dernière Pâque avec Jésus, notre propre Pâque, Christ, notre Pâque ce matin. Ce que la chrétienté ne veut pas, c'est de cette nuit qui précède. Elle ne veut pas. Et sans connaître cette nuit, il n'y aura jamais, jamais la puissance de résurrection. Je vais bientôt terminer, mais dans l'Épître aux Philippiens, Paul dira dans Philippiens 3:10, voilà son ambition, ce qu'il y avait au fond de son cœur. Il disait, ainsi je connaîtrai Christ. Lui, Paul, il dit, ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. Ah, il n'oublie pas, il a compris. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Plus il y a cette mort, ce renoncement, ce brisement, et plus il y aura la révélation de Christ dans notre vie. Comment connaissons-nous Jésus? Fils de l'homme, côté humain, le corps, ce qui était visible. Mais en partant de là, Jésus veut nous conduire dans une révélation progressive de sa personne et de son œuvre et de sa gloire. C'est pas seulement Jésus qu'on idéalise, c'est pas seulement le Jésus humain, parce que derrière l'humain il y avait la parfaite divinité, il était parfaitement homme, mais il était parfaitement Dieu en même temps. Les gens ont connu l'humain, le Jésus, le Fils de l'homme, et c'est bien, mais Jésus nous conduit toujours plus loin. D'ailleurs dans l'Apocalypse, c'est quoi Apocalypse? Qu'est-ce qui est écrit dans le premier verset? Révélation de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, c'est plus le Jésus des évangiles dont nous bénissons Dieu pour, mais c'est Jésus glorieux, Jésus ressuscité, Jésus plein de sainteté, Jésus qui marche au milieu des églises, Jésus qui tient tout dans ses mains. Jésus, c'est lui. C'est pas Jésus qui va être comme l'agneau de Dieu, mais c'est Jésus qui revient comme le lion de Juda. Que Dieu soit béni, il nous faut connaître ces choses. Et dans Éphésiens 1:18, il est dit bien, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions qui est Jésus. Comment connaissons-nous Jésus? Comment le connaissons-nous? 2 Corinthiens 5:16, voici ce que dit Paul. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Comment connaissons-nous Christ? Dans notre expérience, dans notre communion, dans notre adoration, dans notre témoignage, dans notre... Comment connaissons-nous Christ? Il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus puissant, son amour est beaucoup plus profond, Jésus est beaucoup plus saint que ce que nous connaissons. Et voyez, quand il y a eu un aspect de cette révélation dans les évangiles, les disciples étaient à terre. Pierre dira, « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Voilà, il a un aspect de la révélation. Sur la montagne de la Transfiguration, ils sont courbés et ils voient la gloire de Jésus. Ils s'en souviendront, et je l'ai déjà dit, mais 16 ans après, dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, ils se souviennent. Au chapitre 2, ils se souviennent de ce, ça les a marqués à vie. La gloire de Jésus se manifestait. Voilà comment Jésus veut se manifester au milieu de l'Église. Voilà ce Jésus qui veut se manifester. Alors si nous restons en deçà du Jourdain, si nous vivons sans avoir compris, et je crois que si nous n'avons pas compris qui est Jésus, nous ne comprendrons jamais l'expérience dans laquelle il veut nous conduire. Nous ne comprendrons jamais ce qu'il a en réserve pour nous. Si nous avons juste un aspect limité de Jésus, on ne comprendra pas. Parce que comment souffrir si on ne connaît pas celui qui nous dit que nous devons passer par là? On n'aime pas souffrir, on n'aime pas la nuit, on n'aime pas la solitude, on n'aime pas le brisement. C'est en dehors de nos conceptions. Nous, on veut ce qui brille, ce qui est, qui monte. Mais la vie chrétienne, elle descend et ensuite, elle jaillit dans cette vie de résurrection. Jésus, si nous restons en deçà, comment entrer dans le processus que Dieu nous demande pour mortifier, pour que la chair soit brisée, pour crucifier la chair, afin que l'esprit de résurrection se manifeste. Un passage, une nuit d'où jaillit la vie de résurrection. Alors vous savez que quand on a cette révélation de Christ, on a aussi une révélation juste de son œuvre. On a une révélation juste de l'Église. On a une révélation juste du ciel. Bien que nous n'ayons, ne sommes jamais allés, mais on a cette révélation. Quand on connaît Jésus, parce qu'il remplit tout en tous. S'il est au milieu de l'Église, on va avoir une représentation de ce qu'est l'Église. Ce n'est pas juste des membres, c'est des pierres vivantes. Ce n'est pas juste des gens rassemblés, mais c'est le corps avec Jésus comme la tête qui marche au milieu de l'Église. On va avoir cette représentation, donc une mort et une résurrection. Que ce soit pour nous cette Pâque aussi ce matin, qu'il y ait ces incidences, que nous comprenions par où Jésus est passé, que nous nous identifions à lui et comme Paul, Seigneur, que je puisse parvenir à la résurrection, à cette vie de résurrection. Que Dieu fasse que ce soit notre Pâque à chacun ce matin. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons de tout notre cœur. Oui, les versets de ta parole ne sont pas figés. Tes promesses ne sont pas là comme des souvenirs. La Pâque n'est pas juste une fête religieuse. Mais Seigneur, c'est tellement profond, c'est tellement prophétique, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Seigneur, permets que nous vivions ce que tu veux que nous vivions. Permets que nous ne rechignions pas par le chemin dans lequel tu veux nous faire passer. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus, je te le demande pour moi, pour mes frères et sœurs, pour les amis même qui sont là, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter qui tu es, Seigneur, qui tu es vraiment, Seigneur. Ah, les cieux ne peuvent te contenir, Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église. Ah, Seigneur, qu'elle soit spirituelle, qu'elle te ressemble, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.